Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour. Plus de 16 000 cas de Covid-19 en Tchéquie depuis le mois de mars. Littérature, Peter Handke publie une pièce de théâtre consacrée à un jeune Tchèque. Et du foot avec l'Ivoirien Baloua qui rejoint le Victoria Plzeň. Le nombre de cas positifs détectés en Tchéquie depuis le 1er mars est s'élevé mercredi à 16 093 exactement, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé. Cela représente 278 personnes de plus que la journée précédente. 4 290 personnes dans le pays sont considérées comme des cas actifs de Covid-19. 11 429 personnes sont considérées comme guéries, 374 sont mortes et 120 sont actuellement hospitalisées. Le ministre tchèque de la Santé a décidé d'envisager d'augmenter la capacité de dépistage de Covid-19. À l'heure actuelle, les laboratoires de République tchèque sont en mesure d'effectuer quelque 17 000 tests par jour. Adam Wojtěch envisage de tester jusqu'à 25 000 personnes par jour en établissant un réseau de laboratoires centraux dans chaque région du pays. Il a également déclaré qu'à l'automne, lorsque le nombre de maladies respiratoires est susceptible d'être plus élevé, les laboratoires donneront la priorité aux groupes à haut risque, tels que les personnes souffrant de problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle ou de diabète. Il y a actuellement 106 laboratoires tchèques autorisés à effectuer des tests de dépistage du coronavirus. L'écrivain autrichien Peter Handke, prix Nobel de littérature, publie en ce mois de juillet sa pièce de théâtre intitulée Zdeněk Adamec, inspirée par l'histoire du jeune tchèque Zdeněk Adamec qui s'est immolé par le feu en mars 2003 devant le Musée national de Prague. L'agence autrichienne APA précise que la première de cette nouvelle pièce est prévue ce dimanche 2 août au Festival de Salzbourg en Autriche. Ce n'est pas la première fois que Peter Handke écrit sur ce tchèque suicidé à 19 ans, là où Jan Palach avait commis le même geste en 1969. L'écrivain lui avait consacré en 2017 un chapitre dans son livre intitulé « La voleuse de fruits ». On passe au sport avec du foot. Je vous le disais en titre, le latéral ivoirien Adriel Davila Baloua, deuxième meilleur passeur du championnat tchèque cette saison, vient de signer un contrat de 3 ans avec le FK Victoria Plzeň. Le montant de son transfert du club de Karvina n'a pas été publié. Le joueur a été formé à l'ASEC Mimosa d'Abidjan, puis est passé par le LOSC à Lille en France, qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Victoria Plzeň connaîtra le 10 août prochain son prochain adversaire, tiré au sort entre les Néerlandais d'Alkmaar, les Croates du Lokomotiv Zagreb et le vice-champion grec, a priori le Paoka Salonique. La météo, toujours du beau et du chaud sur la République tchèque, 27 degrés pour les maximales prévues ce vendredi. Pour plus d'infos, www.radio.cz. Et dans une poignée de secondes, vous retrouvez Magdalena Hrozinkova pour la suite du programme en français de Radio Prague International. Bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague International. Dans ce programme d'actualité, nous irons à la rencontre de Jan Mužat, co-chef cuisinier du restaurant Občanská plovárna sur les bords de la Vltava à Prague. Jan Mužat est tchèque, mais il a fait ses études et sa formation en France. Vous l'entendrez dans un instant. Dans la seconde partie de cette émission, nous vous ferons découvrir le Clémentinum, ce vaste ensemble d'édifices baroques qui se trouve en face du pont Charles. Ce sera dans le cadre de notre série estivale Histoire de Prague. Très bonne écoute à toutes et à tous. Créée dans la première moitié du 19e siècle, Občanská plovárna est aujourd'hui à Prague le plus ancien lieu encore existant qui autrefois permettait de se baigner dans la Vltava. Et si la fonction de l'endroit a bien évolué depuis, le bâtiment historique de ses bains classés est situé dans le quartier de Malastrana, à côté du siège du gouvernement et en dessous de la colline de l'Etna, permet toujours de profiter des charmes de la rivière. Un restaurant s'y trouve désormais avec à sa tête un jeune chef, Jan Mužatko, qui est un des 3 cuisiniers diplômés de l'Institut Paul Bocuse à Lyon, exerçant leur talent en République tchèque. Guillaume Narguet l'a rencontré.
On n'est pas premier en fait à essayer d'ouvrir un restaurant ici, mais je pense que pour l'instant on est le premier à le faire avec un certain sentiment pour ce qui nous entoure et vraiment de l'ouvrir aux gens de Prague.
Est-ce que vous avez défini le type de cuisine que vous vouliez proposer par rapport justement à l'histoire du lieu?
Au début, quand on a ouvert il y a un an, on a vraiment voulu rester dans, disons, la mode de la Première République. Donc on a resté dans la cuisine tchèque en la mixant avec le savoir-faire français. Parce que commencer pendant la période de la Première République en République tchèque, la cuisine était vraiment très proche de la cuisine française. D'où, en fait, on a voulu suivre cette voie. Et d'après cette situation mondiale qui s'est passée récemment, on était un peu obligé de changer ce qu'on offre aux gens. Mais la vision est de retrouver cette voie tchéco-français dans le futur. Donc, disons, dans la période d'automne, l'hiver.
Une cuisine tchèque avec un savoir-faire français, comme vous le dites, ça veut dire quoi exactement?
Alors, on proposait par exemple, tlačenka.
Pâté de tête, oui.
Pâté de tête, oui, merci. On l'a fait exactement plus ou moins comme on le fait en République tchèque, mais avec des ingrédients et disons, des arômes qui sont plus typiques à la cuisine française. Je trouve que la cuisine tchèque essaye de quelques années de faire exactement la même chose que fait la cuisine française depuis des années. C'est vraiment de prendre le produit terroir et vraiment de l'utiliser au bout. Et on le voit de temps en temps quelque part que vraiment on essaye d'utiliser le maximum que la région nous propose et du coup pratiquer cette authenticité de la cuisine tchèque. Mais moi, personnellement, je dis qu'il n'y a pas vraiment de recette tchèque, purement tchèque. Je pense que la cuisine tchèque, c'est plutôt un mythe qui n'existe pas vraiment. Que c'est beaucoup de recettes qui sont reprises d'autres cultures qui nous entourent. Parce que même si on le dit Svitchkova, par exemple, au final, si on prépare la recette séparément, c'est une recette à sauce de légumes avec... un bout de viande qu'on peut faire à l'eau comme on veut, donc c'est pas vraiment quelque chose qui personnellement me dit que ça c'est la recette tchèque.
Donc on parlerait plutôt davantage d'une cuisine d'Europe centrale.
Exactement, qui s'inspire de d'autres cultures et qui nous sont proches parce qu'en fait disons que le climat nous rejoint, du coup on mange la même chose que les autres, disons en Pologne pendant l'hiver ou voilà.
Yann Moujatko, si je ne me trompe pas, vous avez 25 ans.
Exactement.
Vous êtes donc encore un jeune cuisinier. Quel a été votre parcours?
J'ai grandi à Prague. Ensuite, j'ai entré au lycée français de Prague depuis la classe de CM2 jusqu'au bac. Et ensuite, du coup, j'ai cherché une école qui va être francophone plutôt, ou internationale. Je voulais partir de Prague pour un peu découvrir ce qui est derrière les frontières. Et vu que ma famille elle est depuis 25 ans dans le métier de la restauration et d'hôtellerie, du coup, je commençais à chercher des écoles qui sont focalisé sur la cuisine. Et une de ces possibilités, c'était l'Institut Paul Bocuse. Du coup, j'ai fait les portes ouvertes. Donc, je suis parti à Lyon. J'adorais ce qu'il faisait là-bas, comment c'était construit, le château de Viviers qui est vraiment le côté historique de l'école. Et j'ai rempli le questionnaire, j'ai postulé. Et ensuite, grâce aux résultats de l'école et ensuite des résultats d'évaluation que j'ai fait à Lyon et l'interview que j'avais, j'étais accepté et j'ai rentré à l'Institut Paul Bocuse.
Qu'estimez-vous que ces trois années passées à l'Institut à Lyon vous ont apporté?
Beaucoup. Premièrement, beaucoup plus la culture française parce que quand vous vivez à Prague, même si vous étudiez au lycée français, vous ne trouvez pas beaucoup de choses sur la culture. C'est vraiment un truc qu'il faut vivre. et pas seulement la culture de savoir-vivre, mais aussi voilà, quelles sont les habitudes, etc. Comment fonctionne la société, disons un peu, parce que c'est très différent. Et la culture vers la cuisine française a une tradition qui est super vieille, disons, ce qui est bien. C'est quelque chose qu'on peut suivre et ensuite vivre, peut-être améliorer et apprendre. Et que c'est un travail dur, très dur. Et que la cuisine, c'est vraiment un travail de dédication, en fait, pour toute la vie. Et voilà, j'ai pu voir des choses extraordinaires et manger des trucs que j'ai jamais pensé que je vais avoir la possibilité de manger. Et ouais, donc je profitais du terroir quand même.
Votre séjour en France ne s'est pas résumé à Lyon. Vous avez également travaillé dans d'autres restaurants, dans d'autres régions, c'est bien ça?
Exactement. J'ai travaillé par exemple dans la région du Nice. Là-bas, j'ai fait pas mal de saisons, mais c'était encore avant l'Institut. Ensuite, j'ai travaillé dans la région de Pays Basque. Là-bas, j'ai travaillé pour le chef Cédric Béchad à Saint-Jean-de-Luz. Et ensuite, j'ai resté sur Lyon. Et ensuite, j'ai visité un peu toute la France, mais pas forcément pour travailler.
C'était une réelle volonté, avant déjà votre départ en France, de revenir à Prague ?
Je voulais pas forcément de rentrer à Prague, mais la situation familiale, personnelle, imposait que je retourne. Et depuis ce temps-là, j'ai resté pour l'instant.
Alors, vous avez ouvert ce restaurant depuis le mois de mai. Il y a également un autre concept juste à côté qui a été lancé dans les jardins. Il s'appelle Molo. Vous êtes, paraît-il, l'initiateur du nouveau pop-up gastro-culturel Molo. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça?
Molo, c'est un projet qui a été inventé pendant la période du Covid-19 parce que il fallait trouver quelque chose qui pourra apporter un peu plus de gens de différents âges et classes sociales ici dans l'endroit de Obchanska Plovarne. Parce que, comme vous le dites, il faut un peu chercher, il faut un peu savoir où on se trouve. Et du coup, je voulais ouvrir un bar qui attire un peu plus des jeunes, un peu, voilà, cette clientèle qui peut penser que Obchanska Plovarne, c'est un endroit qui est seulement ouvert pour les riches et plus aisés, ce qui n'est pas vrai en plus. Et du coup, j'ai inventé le projet Molo, qui, voilà, c'est un bar qui est ouvert normalement à partir de 5h de l'après-midi jusqu'à minuit et qui propose du coup des plats qui sont très rapides mais de bonne qualité. Donc on utilise les produits qu'on utilise dans la cuisine à Obchanska Plovarna, mais on les propose d'un autre point de vue. Bon, voilà, les jeunes, des gens qui sont venus ici juste pour un des verres et pour passer une belle soirée.
Molo a été ouvert à la fin du mois de mai. Cela correspond à la levée de différentes mesures de restriction. Comment ça marche depuis? Est-ce que ça tourne comme vous l'espériez?
Ça tourne plutôt bien, mais toujours des projets comme ça qui sont lancés très rapidement comme une réponse à une situation ont besoin d'un peu plus de temps. Vu qu'on est ouvert, comme vous l'avez dit, à la fin du mois de mai, on n'avait pas beaucoup de temps pour le vraiment proposer aux gens de Prague. Et ensuite, il y avait des vacances qui ont commencé, etc. Et du coup, c'était difficile même pour en fait trouver des groupes de musique ou de théâtre ou quoi que ce soit pour les faire venir ici. Mais je pense que le potentiel, il est là. Je pense que les intérieurs qu'on a fait, ils sont très sympas et la vue sur la rivière et des possibilités qu'on peut faire ont un potentiel qui probablement va être mesuré dans les années qui suivent, mais il faut commencer quelque part.
Vous avez fait vos études, votre formation en France.
Certes, vous êtes un des rares à être passé par l'Institut Paul Bocuse. Plus généralement, on voit quand même de plus en plus de jeunes cuisiniers tchèques qui partent à l'étranger. Vous pensez que c'est vraiment une nécessité par rapport aux possibilités de formation qui existent en République tchèque ?
C'est bien que les jeunes apprentis de la cuisine ou juste des gens qui sont motivés par la cuisine partent à l'étranger parce que, comme on l'a dit, la culture dans les pays, même européens ou ailleurs, hein, par exemple si on regarde l'Amérique du Sud ou centrale, la culture de bien manger sont beaucoup plus basées et c'est quelque chose qu'on probablement pas vont apprendre pas ici. Donc moi je pense que c'est une chose à faire. Après bien sûr il y a pas mal de chefs qui aujourd'hui pratiquent leur cuisine ou leur métier ici à Prague, ils font très bien, qui ont déjà de l'expérience de l'étranger, qui sont partis pour l'étranger pendant 10-15 ans, certains pendant 20 ans, et qui retournent maintenant à l'heure actuelle à Prague parce qu'ils estiment qu'ils ont assez d'expérience à l'étranger pour ensuite les utiliser à Prague, ce qui est bien, ce que personnellement je pense c'est le voie qu'il faut faire. Et du coup, moi, je suis pour que les gens y partent toujours à l'étranger, chercher des expériences. Et parfois, il suffit même de partir juste en Allemagne. Là-bas, voilà, même des Tchèques partent beaucoup là-bas. Et c'est des expériences qu'on n'échange pas et qu'on n'apprend pas ici.
Est-ce que vous diriez que le métier de cuisinier gagne en prestige en République tchèque ?
Je pense que c'est en train de changer un peu grâce aux différentes séries TV, grâce sur Netflix par exemple, je pense, ou sur les documentaires où on trouve que voilà, le métier de cuisinier ou des métiers dans la gastronomie sont très difficiles. Je pense que les gens commencent à comprendre un peu plus. Après, s'ils sont capables de le valoriser, c'est une autre question. Mais je pense que voilà, ça commence à être beaucoup plus respecté qu'avant. Mais ça reste toujours un métier qui est étudié dans la plupart du temps en République tchèque, surtout par des élèves qui savent pas trop quoi faire dans la vie et sur le choix ou école qui était dans les possibilités, qui est capable de les accepter. Du coup, ils vont là-bas, mais ils n'ont pas forcément cette motivation ou la dédication vers la cuisine, vers la vie d'un cuisinier.
Et plus généralement, au niveau de l'ensemble du pays, est-ce que vous diriez qu'il y a une volonté croissante aujourd'hui de mieux manger ?
J'espère, parce que sinon on fait tout ça pour rien. Mais il ne faut pas oublier que le monde change un peu. Moi personnellement, je dirais que bientôt on va être à 50-50 avec les, entre guillemets, carnivores et les gens qui sont véganes ou végés. Ce que je trouve qui est bien. Moi-même, je vise un peu plus dans ces voies. Ce qui demande les connaissances, regarder un peu plus ce qui se passe dans le monde, chercher les cuisines d'autres mondes, etc. Donc je pense que oui. Après, au niveau qualité, c'est une autre question.
Yann Mujatko, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
En face du pont Charles, dans la vieille ville de Prague, se trouvent les édifices baroques du Clémentinum, qui fait figure du plus vaste ensemble architectural après le château de Prague. C'est le siège de la Bibliothèque nationale, mais on y trouve aussi l'une des plus belles salles de bibliothèque baroque au monde, la plus ancienne station météorologique du pays, ou encore un tour astronomique qui offre une vue imprenable sur la capitale. Nous allons explorer cet endroit chargé d'histoire dans ce nouvel épisode de notre série estivale Histoire de Prague. Le Clémentinum, qui doit son nom à l'église romane Saint-Clément, est un ancien collège jésuite. C'est un site impressionnant étalé sur 2 hectares que la Compagnie de Jésus a fait construire après son arrivée en Bohême en 1556. Dans l'une des 5 cours du Clémentinum, où l'on peut s'asseoir et se détendre, nous attend la guide pragoise Šárka Gandalovičová.
Pour la plupart des gens qui viennent à Prague, Clémentinum est avant tout le monument national culturel. C'est-à-dire, il a le même statut que par exemple le pont Charles, le château de Prague ou l'ancien siège des princes et rois de Bohême, Vyšehrad, situé sur la rive droite. Néanmoins, pour chacun, il signifie quelque chose de différent. Les touristes veulent absolument voir les intérieurs anciens baroques de la bibliothèque des jésuites, c'est-à-dire la salle qui n'est pas complètement accessible, on peut y jeter un coup d'œil. C'est la salle qui date du premier tiers du XVIIIe siècle, qui est magnifique. Ensuite, les touristes, bien sûr, veulent voir la salle de concert à la chapelle des miroirs, où ils peuvent s'arrêter soir après voir les intérieurs, où ils veulent absolument monter la tour astronomique dominée par la statue d'Atlas. Et à nous, pour les Pragois, ça dépend, parce que la plupart des Pragois qui habitent le centre de la ville de Prague profitent du complexe de Clémentinum parce que c'est situé entre le pont Charles et la place Mariale qui est tout près de la place de l'horloge. Donc pour nous, c'est absolument nécessaire de connaître cet endroit pendant la saison touristique parce que pendant la saison touristique qui est assez longue, normalement à Prague, on ne peut pas bouger dans les rues courantes habituelles à Prague parce qu'elles sont pleines de touristes. Et donc, nous avons un tout petit raccourci du pont Charles en traversant quelques cours de Clémentinum pour aller vers la place de l'horloge. Et c'est pour les Pragois qui sont obligés d'étudier ou qui veulent étudier et se former, l'endroit extrêmement important. Parce que Clémentinum, c'est avant tout le siège de l'institution importante, Bibliothèque nationale. Et la Bibliothèque nationale, ce n'est pas seulement l'endroit qui est accessible aux chercheurs, mais même le public cultivé et intéressé peut être membre. Et jusqu'à tard soir, tous les jours, ils peuvent consulter n'importe quelle littérature dans n'importe quelle langue. Dans l'ancien réfectoire des jésuites extraordinaire.
Je vous celkem více lidí, protože je novinka. To nás čeká a nemine. To bude knihovna.
Les touristes qui profitent de la visite guidée d'une partie du Clémentinum baroque ne savent peut-être pas que le lieu est riche en découvertes archéologiques. Les fouilles ont prouvé que son histoire remontait au IXe siècle. 4 siècles plus tard, les frères dominicains arrivent sur les lieux pour y fonder un couvent entouré de maisons, d'églises et de jardins et devenu un centre spirituel et politique de la Prague de l'époque. Les vestiges de ce complexe médiéval sont aujourd'hui encore visibles dans la crypte de l'église baroque Saint-Sauveur. Martin Staniek de la paroisse nous fait visiter cette pièce souterraine qui sert actuellement à la méditation.
Tak teď se nacházíme v prostoru, kterému my říkáme krypta, ale který je nějaký.
Nous appelons cet espace dans lequel on se trouve la crypte, mais c'est une petite cave où l'on conservait probablement le vin de messe. Ici, on peut voir les restes du mur d'une maison qui faisait partie du couvent fondé par les dominicains autour de 1230. Nous sommes à 4 mètres sous terre, mais au Moyen-Âge, c'était le niveau de la rue. Le mur forme un portail et nous, dans la paroisse, nous pensons que c'est peut-être par ce portail que passait le grand mystique du Moyen-Âge, Maître Eckhart, qui séjournait dans ce couvent pragois.
Donc, il vstupoval právě tímto portálem, těmito dveřmi do dominikánského kláštera.
En 1420, le couvent dominicain est détruit par les Hussites. À son emplacement s'installent en 1556 les premiers membres de la Compagnie de Jésus, invités en Bohême par l'empereur Ferdinand Ier de Habsbourg pour des raisons politiques, comme l'explique Šárka Gandalovičová.
Ils arrivent à Quai 156. La première communauté était probablement choisie encore de vivant de Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre qui meurt en même année, Quai 156. Ils viennent 12 ou 18. C'était les gens qui étaient d'origine irlandaise, d'origine allemande. Je crois qu'il y avait un Slovène qui était parmi eux. En tête, il y avait Peter Canisius. Et parce qu'ils ont eu un soutien très important de la part de l'empereur, parce qu'ils ont, par leur idée pédagogique, participé à la contre-réforme, parce qu'ils ont offert les bourses aux garçons, même des familles protestantes pauvres. Et je vous jure que tous les garçons qui commençaient à étudier grâce à la bourse chez les jésuites ont fini les études comme les catholiques romains. Donc c'est le moyen de la conversion, on peut dire pacifique, que les jésuites ont fait. C'était leur mission principale. Donc de la part de l'empereur, le soutien absolu.
Les frères jésuites fondent alors au centre de Prague leur premier et le plus important collège en Bohême, le Clémentinum. Les travaux de construction de bâtiments baroques et classicistes se poursuivent pendant 170 ans et sont effectués par de grands architectes de l'époque. Les jésuites y installent des écoles renommées pour leur qualité et fréquentées par les étudiants tchèques et étrangers, ainsi qu'une bibliothèque, une imprimerie, un observatoire astronomique et même un théâtre, comme nous le raconte Martin Staněk.
Dans la sacristie de l'église Saint-Sauveur, qui a été jadis la principale église jésuite en Bohême, nous avons des armoires du début du XVIIIe siècle. Certaines proviennent du théâtre jésuite. Elles ont 5 mètres de haut et abritaient les décors. Ce théâtre, c'était un véritable phénomène. Des spectacles d'opéra somptueux et des pièces de théâtre ont été montées au Clementinum par les professeurs et les étudiants à l'occasion d'événements spéciaux comme le couronnement de Marie-Thérèse, reine de Bohême.
Très prestigieux, le collège jésuite devient université et le fusionne après la bataille de la Montagne Blanche avec l'université Charles, à l'époque protestante. Le Clémentinum devient alors un véritable centre universitaire, spirituel et scientifique de l'époque. Il se dote d'une magnifique bibliothèque conservée dans son état original jusqu'à nos jours. Plongé dans la pénombre, décoré de fresques, abritant environ 22 000 ouvrages, ainsi que des globes anciens, cette salle, visitée par Mozart lors de son séjour à Prague, constitue le principal attrait touristique du Clementinum, bien que les touristes ne puissent pas y entrer complètement. Le guide Pavel Hrabánek explique.
A nyní všechno, co vidíte, je originální a původní. Patro spodně část náboženská.
Tous les livres que vous voyez ici sont originaux. En bas se trouvent des ouvrages théologiques, tandis qu'à l'étage sont installés des livres consacrés aux mathématiques, à la linguistique, à la philosophie et à d'autres sciences encore. La majorité d'ouvrages sont en latin, mais également en allemand, en tchèque et dans d'autres langues européennes. La salle de la bibliothèque a été achevée en 1727. Les jésuites s'en sont servis pendant une cinquantaine d'années, jusqu'à l'interdiction de l'ordre par le pape en 1773 et son départ de Bohême. Depuis, la bibliothèque est publique.
Le fonds de la bibliothèque s'enrichit considérablement après la fermeture des couvents par les décrets de l'empereur Joseph II. La situation se reproduit à la moitié du XXe siècle lors des répressions du régime communiste contre les ordres religieux. De nombreux manuscrits saisis dans les monastères sont alors transférés au Clementinum. Pavel Hrabánek raconte.
Cette salle baroque a servi de bibliothèque publique jusqu'en 1918. Le nouvel État tchécoslovaque transforme tout le complexe du Clementinum en une grande bibliothèque que l'on appellera désormais nationale. On construit de nouveaux bâtiments pour les facultés de l'université Charles qui ont jusqu'alors siégé au Clementinum.
Après la visite de la bibliothèque baroque, fermée au public pendant 70 ans jusqu'en 2000, les visiteurs du Clementinum sont invités à emprunter plus de 150 marches pour monter à la tour astronomique. Avant d'atteindre son sommet, ils verront des vestiges des recherches scientifiques que les jésuites effectuaient au Clémentinum, tels des cadrans et des instruments de mesure, ainsi que la salle de la méridienne. Leurs connaissances scientifiques, les professeurs jésuites les transmettaient à leurs élèves pragois, qui étaient donc formés non seulement en théologie, mais également en mathématiques, physique et astronomie. Et pour cause, le scientifique tchéco-allemand et père jésuite Joseph Stepling fonde en 1750 le premier observatoire astronomique en Bohême. Installé dans la tour du Clémentinum, il sera le seul observatoire tchèque jusqu'à l'ouverture en 1928, celui d'Ondřejov, près de Prague. Haute de 68 mètres et dominée par la statue d'Atlas portant la sphère céleste, la tour astronomique offre une vue magnifique sur le centre historique de la capitale. Par ailleurs, jusqu'à la fin des années 1920, on annonçait midi aux Pragois en arborant un drapeau depuis cette tour qui domine le Clémentinum. À proximité de celle-ci sont installés des instruments météorologiques qui mesurent depuis 1773 jusqu'à aujourd'hui les températures et les précipitations dans la capitale. C'est la fin de cette émission de Radio Prague International en français. Portez-vous bien. À demain. Naslyšenou.